J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grosstête et Rémi Pascal sur Radio B.
Salut Rémi. Salut Thomas. Et bonjour à vous tous, chères auditrices et auditeurs. On se retrouve une fois de plus pour notre chronique Plat de résilience, pour parler d'agriculture et de résilience alimentaire. C'est déjà notre sixième chronique, la deuxième de notre deuxième partie sur l'état de notre système alimentaire.
Déjà, eh ben ça va vite, hein. Ça fait déjà un mois depuis notre voyage du pot de yaourt.
T'as bien raison, ça se passe vite quand on apprend des choses. Et ouais, on avait entamé ce chapitre en voyageant avec notre fameux pot de yaourt à la fraise pour mieux comprendre en quoi notre système alimentaire était complexe, très dépendant des énergies fossiles, infrastructures diverses et d'agriculture d'autres pays parfois lointains.
Un vrai bordel. Alors cette fois-ci, sur quelle part du système alimentaire va-t-on se pencher ?
Allez, petit indice. Ce podcast s'attaque à un sujet plutôt dans l'air du temps. Tu vois de quoi je parle ?
Le rôle de l'intelligence artificielle dans la production alimentaire ?
Non, pas vraiment. Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé en France un peu partout en Europe aussi ces derniers mois, ce début janvier 2024, autour de l'agriculture, les agriculteurs dans la rue, des blocages ?
Ah, mais oui, bien sûr, tu parles de l'actualité. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris tout ce qui s'est passé. Tu vas encore me dire que je simplifie le problème, mais en gros, ce sont les agriculteurs qui se plaignent parce qu'ils sont mal payés, c'est ça ?
Oui, en gros, c'est ça. Mais comme tu l'avais déjà pressenti, ce sujet n'est pas aussi simple que ça, et c'est justement ce dont on va discuter aujourd'hui. La juste rémunération des agriculteurs dans un contexte où il faut aussi assurer une accessibilité à la nourriture aux consommateurs, et où il faut sérieusement prendre en compte les limites planétaires et, de manière générale, la protection de l'environnement.
Tout est toujours compliqué.
Ah, c'est sûr que la complexité de nos sociétés fait qu'on peut rarement aborder un sujet sans prendre en compte plein de facteurs. Mais c'est pour ça qu'on est là, Rémi. Bon, du coup, tu me disais que tu n'avais pas bien compris ce qui se tramait vraiment derrière ces derniers événements. Qu'est-ce qui te semblait pas clair ?
Bah, les raisons pour lesquelles les agriculteurs étaient dans la rue. J'ai noté que les prix n'étaient pas assez rémunérateurs, donc les revenus étaient trop bas, que les normes étaient trop contraignantes et complexes à mettre en place, et qu'il y avait une concurrence déloyale d'agriculture d'autres pays, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe. Mais je n'arrive pas trop à y voir clair dans toutes ces revendications. Par exemple, les revenus trop bas, c'est une réalité ?
Pour être une réalité, elle est frappante. Aujourd'hui, en France, la moitié des agriculteurs gagnent moins de 1300 euros net par mois. Et le quart, moins de 600 euros net. Et tout ça pour 55 heures de travail en moyenne par semaine.
Ah oui, ça ne fait pas beaucoup. Je suis pas sûr que j'accepterais d'être payé aussi peu par mon entreprise pour 55 heures semaine. Mais c'est la faute à quoi ? Ou à qui ?
Mais tout d'abord, c'est la faute à des prix pas assez rémunérateurs. Dû en grande partie à un pouvoir de négociation des prix très réduit des agriculteurs au sein des filières.
Mais ça veut dire quoi ça ?
Ça veut dire que dans tout le système alimentaire que l'on décrit dans notre précédent podcast, centrales d'achat, négociants, distributeurs, comme les supermarchés, captent une énorme partie de la valeur ajoutée de la production agricole. Tu connais le juste prix ?
Ah oui, carrément.
Bon allez, vas-y. Je te laisse me dire combien sur une pièce de 1 euro tu dépenses au supermarché, combien revient à l'agriculture ?
Je sais pas, moi, 80 centimes, un truc comme ça, non ?
C'est moi !
50 centimes. L'agriculteur doit quand même au moins récupérer la moitié de la valeur ajoutée.
C'est moi !
25 centimes ?
Non, bon. Encore moins. Mais allez, je vais te le dire parce que tu vas jamais t'en sortir à ce rythme. Je sais que c'est assez hallucinant, mais en moyenne, sur 7 euros, seulement 6 centimes vont dans la poche de l'agriculteur.
Quoi ? Mais comment c'est possible ? C'est lui qui produit la nourriture et il ne récupère même pas 10% du bénéfice. Mais il va où tout cet argent ?
Tu te souviens, lors de notre dernier podcast, la complexité de tout notre système que l'on décrivait ? Avec l'ensemble des intermédiaires, les collecteurs, négociants, transporteurs, distributeurs ? Ces acteurs captent cette grosse partie de ce prix. Face à ces géants, les agriculteurs ont peu de pouvoir dans une négociation des prix.
Mais donne-moi un exemple pour que je me projette mieux, là. Sur le lait, je crois que c'est un des produits sur lesquels il y a eu pas mal de problèmes.
Parfait exemple. Aujourd'hui, un litre de lait conventionnel est payé en moyenne 43 centimes d'euros le litre, alors qu'il sera en moyenne revendu entre 1,30€ et 1,40€ le litre en briques de supermarché, soit 90 centimes payés par le consommateur qui ne vont pas dans la poche de l'agriculteur. Et sachant que je vais peut-être t'en apprendre une là, mais en plus, il existe aussi derrière cela des bénéfices cachés de l'agro-industrie, sur certains produits comme le lait. Pour faire le lait demi-écrémé, qui sera revendu en supermarché, l'agro-industrie collecte une partie de la matière grasse du lait brut, qui sera, elle, revalorisée dans d'autres produits, comme du beurre, des bénéfices qui ne rentrent même pas en compte dans cette différence de 90 centimes.
Ah oui, c'est quand même fort. Mais je me demandais quand même, quand tu vas voir ton maraîcher dans ton petit village, là, celui à laquelle tu achètes sa production directement, hein, c'est de la vente directe, ben, ce problème ne se pose plus. Il récupère toute la valeur ajoutée que je vais lui payer. Donc pourquoi tous les agriculteurs ne font pas ça ?
Tu as raison. Il gagne mieux sa vie car il n'y a pas d'intermédiaire. Mais il est quand même concurrencé par les prix des supermarchés. Que va faire un consommateur s'il paye au supermarché ses carottes 1,2€ le kilo, alors que sur le marché, son producteur lui vend à 1,5€ ? Il a quand même beaucoup moins d'intermédiaires et du coup une meilleure rémunération, c'est vrai. Après, c'est du travail en plus et une certaine insécurité. Quand tu vends toute ta production à un seul acheteur, tu es sûr de tout vendre et tu ne t'embêtes pas niveau logistique. Faire des marchés, organiser un système de vente directe, c'est du travail et tu n'es pas toujours sûr de tout réussir à vendre. En plus, il y a certains produits que tu es obligé de transformer pour les vendre directement. T'achèterais du blé brut, toi, comme ça ? Ou t'es bien content d'avoir ta farine et tes pâtes déjà tout prêtes ?
Ah ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Et donc, pour revenir à cette rémunération, sur l'exemple du lait, par exemple, les 40 centimes par litre, même si la différence entre le prix de vente est énorme, ça ne permet pas une bonne rémunération de l'éleveur.
Malheureusement, non. Dans certains cas, certains éleveurs, et de manière générale des agriculteurs, vendent même leur production à perte. Cette situation est souvent de plus en plus vraie avec l'augmentation du prix de leurs charges, pétrole, électricité, etc., qui fragilise finalement encore plus leur bilan économique.
Mais comment ils s'en sortent alors ? Parce que pour moi, un entrepreneur qui vend des produits à perte, son entreprise, elle dure pas longtemps.
Ah bah t'as pas tort, hein. En réalité, pour certains des agriculteurs, ce sont les subventions de l'Europe qui les font tenir économiquement. Le système de la PAC, la politique agricole commune, permet de subventionner les agriculteurs en fonction de certains critères. Et pour beaucoup d'entre eux, sans ces aides, leurs exploitations ne seraient pas viables économiquement. C'est le premier budget de l'Union européenne. Et puis, d'un point de vue image et fierté, ça reste compliqué de se dire que tu es obligé d'être subventionné pour ne pas être en faillite, alors que tu travailles beaucoup pour produire des denrées alimentaires.
Ce n'est même pas vraiment le fruit de ton travail, en fait, qui te rémunère.
Et ouais. Un des slogans, d'ailleurs, qui était pas mal cité lors de ces dernières manifestations de janvier et février 2024, c'était « Moins de primes, plus de prix ».
Mais il me semblait aussi que certains des slogans dénonçaient le surplus de normes, et surtout de normes environnementales. Les agriculteurs n'ont pas envie d'entendre parler d'environnement ? Ça doit être quand même les premiers touchés par les effets des pesticides, par exemple.
Mais déjà, comme dans toute la population, la position des agriculteurs face aux enjeux environnementaux et climatiques est très variable en fonction de à qui tu t'adresses. Il existe beaucoup de divergences d'opinions sur ces sujets au sein du monde agricole. Les agriculteurs ne sont pas une catégorie sociale homogène. Sauf que, comme tu le dis, ils sont souvent les premiers à être touchés par les impacts environnementaux qu'entraîne l'agriculture conventionnelle. De 1, leur santé est touchée de manière directe par l'utilisation de pesticides. De 2, la durabilité de leur sol, de leurs écosystèmes, qui au final sont leurs outils de production, est aussi dans le moyen long terme impactée. Ici, en plus des pesticides, eh bien, le travail du sol, par exemple, intensif et systématique, ainsi que des engrais de synthèse, plutôt encouragés dans les modèles industriels, entraînent des pertes de fertilité des sols, de l'érosion, des déséquilibres biologiques de diversité qui favorisent l'apparition de maladies.
Ouais, c'est bien ce qui me semble, et s'ils ne prennent pas soin de l'environnement, ils finissent par abîmer leur outil de travail sur le long terme. C'est comme un sportif qui ne se repose jamais, en fait. Au début, il enchaînera les victoires, mais au bout d'un moment, il tire trop sur la corde et risque de se blesser. Mais alors, pourquoi être contre les mesures environnementales, au final ? Ça devient trop contraignant pour produire ?
Et oui, les agriculteurs sont obligés constamment de s'adapter aux normes, et pas que environnementales d'ailleurs. Et cela leur demande beaucoup de travail administratif. Pour eux, c'est souvent du travail compliqué qui sort de leur champ de compétences. C'est là où on touche une des autres principales revendications, la concurrence déloyale, qu'elle soit intra-européenne ou à l'échelle mondiale.
Oh, alors là, tu m'as perdu, Thomas. Il y a 2 secondes, on parlait d'environnement, et là, tu parles de concurrence. Mais c'est quoi le lien ?
Tu vas voir, le lien est évident. En fait, très peu d'agriculteurs sont vraiment au fond d'eux anti-écologistes, pro-pesticides. Ils peuvent, par contre, le devenir, ou du moins remettre en cause l'application de normes environnementales dans le contexte tendu de la compétitivité mondiale, imposée par une économie libérale. Et c'est en grosse partie cela, finalement, qu'ils ont critiqué ces dernières semaines.
Attends, je t'arrête, l'économiste, là. Économie libérale, c'est quoi déjà ?
Une économie libérale est basée sur l'intensification des échanges entre les pays et est souvent liée à une spécialisation de la production de ces pays. Par exemple, la France est un pays doué pour produire du fromage et des céréales, l'Espagne produit très bien des fruits et légumes, et donc les deux pays ont un avantage commun à se spécialiser dans ces productions et à échanger entre eux. C'est plus rentable pour les pays et moins cher pour les consommateurs.
Oui, c'est vrai que quand on se balade au supermarché aujourd'hui, on voit des produits qui viennent de partout. J'entendais que la moitié de nos fruits et légumes étaient importés. C'est énorme. Je pensais qu'on était capable de les produire nous-mêmes.
Eh oui. Et il est là le problème. C'est qu'au final, on met en concurrence nos agricultures sur un marché mondial et européen. Et que, d'un autre côté, on n'impose pas forcément les mêmes règles dans chaque pays aux agriculteurs. Et que même sans imposer des règles, ils n'ont pas les mêmes contraintes sociales au niveau du salaire, par exemple. On peut prendre l'exemple de certains pays, comme la Pologne, qui, avec des normes environnementales beaucoup moins contraignantes que la France et une main-d'œuvre moins chère, arrive à inonder le marché français de fruits comme la pomme à des prix défiant toute concurrence. La pomme polonaise coûte près de 2 fois moins cher à produire qu'une pomme française.
Mais si je me mets dans la peau d'un agriculteur qui fait des pommes en France, on m'impose de nouvelles normes plus strictes, donc par exemple moins de pesticides autorisés, on me demande de remplir plus de paperasse, et au final, celui qui va m'acheter mes pommes pourra trouver moins cher ailleurs, et cherchera donc à baisser les prix. Mais à quoi bon faire de la paperasse et produire un aliment qui respecte des normes s'il est mis en concurrence avec des produits similaires étrangers qui ne les respectent pas ? Le tout pour ne pas gagner sa vie.
T'as tout résumé. L'agriculture française est mise à mal avec une concurrence au sein même de l'Union européenne, et bien sûr aussi de l'étranger. Au sein de l'Union européenne, les biens et les personnes circulent librement. Les produits agricoles sont donc soumis à un libre-échange intégral. Bon, pour ce qui est de la concurrence avec des pays hors UE, on a plutôt mis en place de nombreux traités de libre-échange comme le Mercosur avec l'Amérique du Sud ou le CETA avec le Canada.
J'ai entendu que ces traités étaient bons pour notre agriculture. Ils nous permettent plus facilement d'exporter du vin.
Mais ça nous permet aussi d'exporter facilement des produits non agricoles comme des voitures. On exporte facilement des voitures et du vin. C'est bon pour nos entreprises automobiles et nos vignerons. Par contre, ce n'est pas bon pour nos éleveurs qui voient leur viande concurrencée par du bœuf canadien.
Ouais, il y a des gagnants et des perdants.
Mais dans ces accords, les produits agricoles sont considérés au même titre qu'une voiture.
L'agriculture ne peut pas suivre les mêmes règles qu'un bien manufacturé et être soumise à la concurrence libre et non faussée.
Mais si les agriculteurs étaient des producteurs de téléphones, en suivant les lois du marché, les moins compétitifs seraient mis hors jeu. Mais bon, on se nourrit pas encore de téléphones. Ce qui est triste, c'est que l'exportation de certains de nos produits français ont les mêmes effets délétères sur d'autres agricultures des pays du Sud, depuis 50 ans. Nos modèles agricoles industrialisés seront plus productifs qu'une agriculture paysanne et familiale. Le blé qu'on exporte au Sénégal, par exemple, sera moins cher à acheter pour un Sénégalais que le blé de son paysan du coin.
Même en le faisant parcourir des milliers de kilomètres en bateau, notre blé coûte moins cher là-bas.
Et oui, l'agriculture française est plus productive que l'agriculture sénégalaise, du fait du modèle industriel. Ce ne sont pas du tout les mêmes modèles. Le modèle, c'est que si l'agriculteur sénégalais n'arrive pas à vendre son produit chez lui, il tombe dans la précarité.
Mais c'est absurde, on fait subir ailleurs ce que l'on subit chez nous. On n'apprend pas vraiment de nos erreurs alors.
Bah, le serpent qui se mord la queue.
Moi qui avais envie de devenir agriculteur pour faire un métier d'avenir, ça a l'air bien compliqué ton affaire. Hein.
Et ce n'est pas tout. Ce qui sera encore plus compliqué pour toi, c'est que tu n'es pas issu du monde agricole. Et en plus, t'es pas millionnaire.
Mais si j'étais millionnaire, Thomas, je serais en train de me dorer la pilule aux Bahamas. Je serais pas en train d'acheter une ferme. Je vois pas le rapport.
Bah, pour être agriculteur, il va falloir que tu achètes des terres pour cultiver. Des bâtiments, des machines, des animaux potentiellement si tu veux être éleveur. Et chaque année, de quoi cultiver ? Des semences, des engrais. Et tout ça, ça coûte cher. Très cher. Une ferme, c'est facile 1 million d'euros. Hein. Si tes parents ne te transmettent pas une ferme, tu vas devoir l'acheter. Donc emprunter. À moins d'être millionnaire. Il va falloir qu'ils remboursent ce prêt avant de se tirer un salaire.
Ah oui, tu parles de l'agriculteur là. C'est pour ça qu'on dit que les agriculteurs vivent pauvres pour mourir riches. Parce qu'ils accumulent leur capital toute leur vie. Mais même s'ils galèrent pendant leur vie, au moins ils partent à la retraite avec un beau chèque. De quoi aller aux Bahamas un certain temps, non ?
Ouais, ça n'arrive pas souvent malheureusement, parce que les fermes se sont beaucoup agrandies. Beaucoup ont mis la clé sous la porte ou n'ont pas trouvé de repreneur. C'est le voisin qui la rachète et la ferme s'agrandit. Ces 10 dernières années, on a perdu 100 000 exploitations agricoles et leur taille a augmenté en moyenne de 25%. La valeur des fermes a donc aussi augmenté et il est de plus en plus difficile de les reprendre. Elles coûtent beaucoup trop cher.
Investir des centaines de milliers d'euros pour ne pas gagner sa vie, bah ça fait pas rêver, hein.
Bah il y a environ 500 000 agriculteurs en France et leur nombre diminue sans cesse, donc c'est un signe. La moitié va partir à la retraite dans les 10 ans.
Si on améliore leurs conditions de travail, leurs revenus et qu'on facilitait la reprise des fermes, on rendrait plus attractif le métier et puis ça inciterait des jeunes à s'installer.
Bah, prends ton mal en patience et attends que ça s'améliore avant d'acheter une ferme, alors. Bon, avant, fais-moi un petit résumé, là, pour nos auditeurs de ce qu'on vient de se dire.
Trop facile. Alors, si je résume, les agriculteurs ont peu de moyens de définir leurs prix, qui sont globalement trop bas pour qu'ils en vivent correctement. Leur rentabilité dépend des subventions européennes, qui est le premier budget de l'Union européenne. Ils ont pas mal de paperasse et travaillent beaucoup pour rembourser leur ferme, qu'ils n'arrivent pas à transmettre à la retraite. Et je n'ose même pas te demander à combien s'élève leur pension de retraite. Bon, avec tout ça, je comprends qu'ils sont pas contents, les agriculteurs. Ils font un boulot vital pour la société, c'est un secteur stratégique et d'avenir, mais ils s'en sortent pas.
Bon, pas trop mal ton résumé. Mais n'oublions pas qu'il y a une grande diversité d'agriculteurs tout de même. Ce ne sont pas tous les mêmes et ils ne sont pas du tout tous dans la même situation. Le tableau est un peu noir, je te l'accorde, mais il existe des solutions que nous développerons à partir de l'épisode 9 de ce podcast.
Il va falloir attendre patiemment. Je sais pas si je vais tenir, Thomas.
Bon, nous espérons que cet épisode vous a plu.
Il vous permettra d'animer le prochain repas de famille et d'expliquer à Tata Simone pourquoi les agriculteurs sont en colère.
Et on parlera dans le prochain épisode de l'impact de notre modèle alimentaire, cette fois-ci sur les écosystèmes et le climat. Retrouvez cet épisode sur le site de Radio B où sont détaillées toutes les sources pour aller plus loin. A bientôt, c'était Thomas Grostette
et Rémi Pascal sur Radio B.
J'aime beaucoup les pommes, c'est un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité ? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostette et Rémi Pascal sur Radio B.